Bienvenue à la maison natale de Louis Pasteur. Louis Pasteur est né à Dole le 27 décembre 1822. Ses parents, Jeanne-Étiennette et Jean-Joseph Pasteur, sont des tanneurs originaires du pays de Salins qui se sont installés dans ce quartier populaire au bord du canal dès 1816. Le couple a 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Louis est le troisième. Le père de Pasteur, avant d'être tanneur, a été soldat dans les armées de l'Empire. Ayant tiré un mauvais numéro à la conscription, il participe aux dernières campagnes de l'Empire. Jean-Joseph a eu la chance de revenir vivant et en bonne santé. Cette expérience militaire lui a donné une ouverture d'esprit et une certaine idée de la grandeur de la France. Il sait lire et écrire, et chaque soir, après sa journée de travail, il révise sa grammaire et ses conjugaisons. Il peint à ses heures perdues et apprécie les sujets napoléoniens, comme le montre la peinture du soldat laboureur. Quand Louis quitte le domicile familial, Jean-Joseph entretient une correspondance régulière avec son fils. Les conditions de travail dans une tannerie sont rudes. Il faut supporter la présence de vermine, le travail dans l'eau insalubre, l'usage des produits chimiques corrosifs, l'odeur fétide des peaux. Étonnant d'imaginer que le futur père de l'hygiène a fait ses premiers pas dans un bouillon de culture. Louis Pasteur dit qu'il tient sa ténacité de son père et son imagination de sa mère. Quand il inaugure le 14 juillet 1883 une plaque en son honneur sur la façade de sa maison natale en présence des notables d'Aulois, il rend un hommage appuyé à ses parents qui, malgré leurs conditions modestes, ont contribué par leur exemple à lui donner le goût de l'effort et l'enthousiasme. L'arbre généalogique indique que Louis Pasteur a eu à son tour 5 enfants. 3 de ses filles sont mortes jeunes, 2 de la typhoïde et 1 d'une tumeur au foie. Seule sa fille Marie-Louise a eu des enfants. Le pastel au mur représente le dernier descendant de la famille, Louis Pasteur Valéry Radeau, mort en 1970. Il est à l'origine de l'essentiel de la collection du musée, ouvert en 1923. Il n'y a plus de descendants de Louis Pasteur en vie aujourd'hui. Remarquez l'impact de la mortalité sur une famille au 19e. La mortalité infantile liée aux maladies contagieuses et aux fièvres néonatales est très importante. Louis Pasteur contribuera à faire reculer cette mortalité en montrant l'efficacité des règles d'hygiène et de quarantaine dans la lutte contre les infections et les maladies contagieuses. Si le berceau en osier a bercé les enfants du savant, le bonnet en soie blanche dans la vitrine a été porté par le jeune Louis lors de son baptême à la collégiale de Dole. Louis Pasteur est resté à Dole jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. À ses 8 ans, ses parents s'installent définitivement dans la maison d'Arbois. Avant de sortir, essayez de deviner la pointure des bottes de Louis dans la vitrine. Vous êtes maintenant dans la salle de l'homme. Le jeune Louis Pasteur est un élève moyen de la vie de ses professeurs du collège d'Arbois. Il montre dès l'âge de 13 ans un goût prononcé pour les arts et dessine au pastel les portraits des notables arboisiens visibles au mur de cette salle. Ces pastels témoignent déjà de son sens de l'observation, qui sera un atout précieux pour le futur savant. Ses talents artistiques ne détournent pas le jeune Pasteur de ses rêves d'ascension sociale. Après avoir passé ses 2 baccalauréats, où il obtient la mention médiocre en chimie, Louis Pasteur soutient une thèse sur les cristaux, document présenté dans la vitrine entre les pastels. Cette étude est récompensée d'un prix de 1500 francs. Encouragé par ses professeurs, Jérôme Ballard et Jean-Baptiste Dumas, et par le physicien et académicien Jean-Baptiste Biot, Louis a l'ambition d'entrer à l'Institut de France. Pour l'heure, il enseigne la chimie à l'Université de Strasbourg avant de devenir doyen de la Faculté des sciences de Lille et enfin directeur des études scientifiques à l'École normale supérieure. C'est un professeur exigeant avec ses élèves, qui manque parfois de subtilité dans les relations humaines, mais qui sera à l'origine de l'introduction des travaux pratiques pour les étudiants en sciences. À une époque où la recherche n'est pas financée, Louis Pasteur a conscience qu'un scientifique doit communiquer pour espérer susciter l'intérêt et obtenir des aides financières. Le savant est soucieux de son image et n'hésite pas au besoin à demander à son photographe de retoucher son cliché, comme le montre la lettre manuscrite dans l'armoire vitrée. Par la suite, des artistes comme Lafont en 1883 ou Callot au début du XXe siècle le saisissent au laboratoire associé à ses instruments de travail. Le microscope, bien sûr, qui, malgré son faible grossissement, lui permet de voir les grands micro-organismes. Les ballons contenant des bouillons de culture qui mettent en évidence les moisissures provoquées par la présence des microbes plus petits. Et surtout, le cahier de laboratoire où il consigne méticuleusement toutes les étapes de ses expériences. Pasteur peut compter aussi sur sa femme, Marie, la fille du recteur de l'Académie de Strasbourg, pour le soutenir dans ce travail de communication. Elle aide son mari dans les gestes du quotidien après l'attaque cérébrale qui le frappe d'hémiplégie à 46 ans. Elle prend en note ses recherches sous sa dictée, relit ses comptes rendus et joue le rôle de premier public. Émile Roux, l'assistant de Louis Pasteur, dira « Madame Pasteur était non seulement une compagne incomparable pour Pasteur, elle a été aussi son meilleur collaborateur. » Le couple, très uni, correspond à l'image conjugale parfaite du XIXe siècle, respectueux des normes sociales et morales de l'époque. Cette bonne réputation donne la crédibilité dont Louis a besoin pour faire entendre ses théories révolutionnaires. À la fin de sa carrière, Pasteur vit dans l'aisance, mais cela n'a pas toujours été le cas. Après la guerre de 1870, il connaît une période de gêne financière qui durera jusqu'à ce que l'Assemblée nationale lui accorde deux récompenses nationales, l'une en 1874 pour avoir sauvé les vers à soie, l'autre en 1883 pour la découverte du vaccin contre le charbon des moutons. La salle légende. Dès 1883 et l'obtention par le savant de sa seconde récompense nationale, les Dolois organisent une grande fête en son honneur, dont vous pouvez voir les images dans le Verascope. Après la découverte du vaccin contre la rage en 1885, Louis Pasteur est un savant connu et reconnu dans le monde entier. En France, on le surnomme le saint laïc de la Troisième République. À sa mort en 1895, après des obsèques nationales, son corps est déposé à Notre-Dame en attendant la réalisation de la crypte aménagée en son honneur sous l'Institut Pasteur de Paris. L'aquarelle présentée au-dessus de la cheminée montre cette crypte de style néo-byzantin réalisée par Charles Giraud à la demande de Marie Pasteur. Le couple y repose désormais, encadré par les quatre vertus théologales, l'espérance, la foi, la charité, auxquelles Marie Pasteur a ajouté une vertu toute pasteurienne, la science. Louis Pasteur reste, jusqu'au milieu du XXe siècle, une icône qu'on retrouve sur les timbres, les billets de banque, mais aussi sur les étiquettes de bière et celles des camemberts. La salle des expériences. La première vitrine, au fond à droite de la pièce, présente les premiers travaux menés par Pasteur à Strasbourg sur les cristaux. Cette première enquête est une histoire de faux jumeaux. Il s'agit de comprendre pourquoi le tartre que l'on trouve dans les tonneaux de vin et le paratartrate, deux substances chimiques apparemment identiques, réagissent différemment. En les scrutant à la loupe, Pasteur remarque que les cristaux sont asymétriques, comme peuvent l'être nos deux mains, et possède une petite facette d'un seul côté du cristal, soit à droite, soit à gauche, qui dévie la lumière du polarimètre d'un côté ou d'un autre. Ses travaux annoncent la naissance de la chimie de synthèse et lui donnent les connaissances pour différencier le monde organique, le monde du vivant, et le monde minéral. Cela va lui être très utile, alors même qu'à l'époque, certains scientifiques défendent l'existence de générations spontanées et pensent que la matière non organique peut donner naissance à un être vivant microscopique. La vitrine suivante évoque les travaux sur les fermentations. Pasteur travaille sur le vin dans le Jura. Il montre que le vin se transforme en vinaigre sous l'action de bactéries. Pour éviter cette transformation, il suggère de tuer les bactéries en faisant chauffer le vin. En 1865, à l'âge de 43 ans, il brevette le procédé qui prend rapidement le nom de pasteurisation. Il adapte ensuite cette technique à la bière. En 1886, Soxhlet, un chimiste allemand, adapte la pasteurisation au lait afin d'éliminer de cette boisson le bacille de Koch, responsable de la tuberculose. Au cours des expériences menées dans le vignoble jurassien, Louis Pasteur décèle que le jus de raisin se transforme en vin sous l'action de levures, invisibles à l'œil nu, les mêmes que l'on trouve dans la bière et dans la pâte à pain. Celles-ci se déposent sur les grains de raisin durant leur croissance. Pasteur, en enveloppant les grappes de coton stérile, les isole de la contamination par les levures présentes dans l'environnement. Le jus prélevé à l'abri de l'air et des levures présentes dans l'air reste du jus de raisin et ne se transforme pas en vin. Sans levure, pas de fermentation. Pasteur démontre également que les micro-organismes ne sont pas des générations spontanées. À l'époque, en effet, de nombreux scientifiques pensent que les micro-organismes apparaissent sans parents, comme par magie. Le débat est intense et Pasteur y met fin par cette expérience indiscutable réalisée en 1878 sur sa vigne de Montigny-lès-Arsures. Louis Pasteur établit que les levures sont responsables de la transformation du jus de raisin en vin. Elles ne sont pas produites par la fermentation, mais la provoquent. La troisième vitrine montre une expérience très visuelle que Pasteur a faite pour montrer que la génération spontanée n'existait pas. Ces ballons, réalisés par Pasteur, ont plus de 150 ans. Pasteur les a remplis d'un bouillon de veau stérilisé, très appétissant pour les micro-organismes qui sont autour de nous dans l'air. Depuis 150 ans, les micro-organismes n'ont pas pu entrer dans les ballons scellés et leur contenu est intact. À l'inverse, le ballon à col droit, à peine ouvert à l'extrémité, a permis l'entrée des micro-organismes et le développement des moisissures de couleur noire, signe de leur présence. Le ballon à col de cygne, même s'il est ouvert, interdit l'ascension des micro-organismes qui, soumis à la loi de la pesanteur, sont tombés à l'entrée de la première courbe. On peut donc arrêter mécaniquement les microbes. La génération spontanée n'existe pas. La quatrième vitrine évoque les travaux sur les vers à soie qui seront présentés plus en détail dans l'exposition « Vers à soie, vers à science » au deuxième étage à la fin de la visite. La dernière vitrine aborde les travaux sur les vaccins. Entre 1880 et 1885, Pasteur a mis au point 4 vaccins. Le vaccin contre le choléra des poules, le vaccin contre le charbon des moutons, le vaccin contre le rouget du porc et enfin le vaccin contre la rage. En s'appuyant sur la découverte du vaccin contre la variole faite par Jenner en en 1796. Pasteur explique que les maladies contagieuses sont provoquées par des micro-organismes dont on peut atténuer la virulence en les plaçant dans un environnement inapproprié à leur développement. Il obtient ainsi des micro-organismes atténués qui, une fois injectés, ne provoquent pas la maladie mais protègent le receveur en cas de contact avec la forme virulente. Au XIXe siècle, la rage est une maladie qui fait peur, même si les personnes atteintes sont moins nombreuses que les victimes de la variole ou de la diphtérie. La contamination se fait par morsure d'un animal enragé, souvent le chien de la ferme. Le virus présent dans la salive migre dans le corps de la victime pour rejoindre le cerveau pendant la période d'incubation qui dure en moyenne 30 jours. Puis les symptômes apparaissent. Gorge gonflée, impossibilité de déglutir, migraine, peur phobique de l'eau. La mort survient rapidement. Dès l'apparition des symptômes, le malade est condamné aujourd'hui encore. Un souvenir d'enfance est resté gravé dans la mémoire de Pasteur. Un homme, prénommé Nicole, mordu par un loup enragé aux alentours d'Arbois, à qui on cautérisa au fer rouge ses nombreuses plaies, montra quand même des symptômes. On dut abréger ses souffrances. Au XIXe siècle, les victimes des bêtes enragées étaient souvent saignées aux quatre membres, puis étouffées entre deux matelas. Pour ses recherches, Pasteur cultive le virus sur le cerveau de lapins vivants et obtient une forme fixe de la rage, beaucoup plus rapide, pouvant provoquer les symptômes en 5 jours seulement. Puis, il atténue ce virus de laboratoire par dessèchement de fragments de moelle épinière de lapin dans un flacon à double tubulure visible dans la vitrine. Ainsi, parce que le vaccin est 6 fois plus rapide que le virus responsable de la maladie naturelle, il peut être administré aussi après contamination. Les mordus disposent d'un délai après la morsure pour bénéficier du vaccin. Le premier être humain à bénéficier de la découverte de Pasteur est un jeune Alsacien de 9 ans, prénommé Joseph Mester, en 1885. L'enfant présente 14 morsures infligées par un chien enragé et est considéré comme condamné. Son sauvetage attire de nombreux mordus du monde entier au laboratoire de l'École normale supérieure à Paris. Pasteur a 63 ans, il est célèbre dans le monde entier. Il lance alors une souscription et avec l'argent récupéré, fonde l'Institut Pasteur de Paris en 1887. Pour poursuivre la visite, empruntez la terrasse et montez au 2e étage par l'escalier de pierre.